RCF. À l'occasion de la nouvelle année liturgique qui va démarrer avec le temps de l'Avent, un événement pour l'Église catholique en France et dans les pays francophones, la nouvelle traduction du Missel romain, et nous allons en parler avec Serge Kerrien, qui est diacre permanent spécialiste de liturgie. Avant de regarder ce qui va changer, est-ce que vous voulez nous rappeler qu'est-ce que c'est que le Missel romain, Serge Kerrien ?
Alors, le Missel romain, c'est donc un utilitaire. C'est-à-dire, c'est un ouvrage qui est utile au prêtre pour célébrer la messe. C'est tout à fait différent du lectionnaire ou de l'évangéliaire, qui sont des livres de la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas des livres de la parole de Dieu, c'est vraiment un usuel. Voilà, on en a besoin pour célébrer la messe. Et le missel romain, depuis déjà pas mal de temps, est donc un outil unique. Il est le même à travers toute l'Église, avec des adaptations, évidemment, en fonction de telle ou telle ère linguistique. Mais il est le même depuis très longtemps. En gros, depuis le Concile de Trente, où le pape Pie V avait décidé qu'il y ait désormais un seul missel, écrit en latin, et qui est donc le modèle pour l'ensemble des missels à travers le monde et à travers l'Église universelle, chacun après adaptant en fonction de la langue et du lieu.
Il faut quand même parler de 1969.
69, évidemment, après le Concile, le pape Paul VI demande que le missel soit adapté. Donc, on va reprendre le missel en fonction des demandes du concile, et il y a quelques demandes assez précises, et puis en fonction des besoins de l'époque. Donc il va y avoir là une version latine qui va être proposée, et puis à partir de cette version latine là, il va y avoir des traductions. La première traduction qui a eu lieu, c'est le missel qu'on a à peu près aujourd'hui, avec quelques adaptations qui ont été faites en cours de route, mais vraiment très 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 peu. C'est le missel de 69.
D'où vient ce mot missel d'ailleurs ?
Alors, au point de départ, on dit c'est complètement drôle. Missel, ça revient du mot missa. Hein. Et missa, c'est envoyer. C'est ite missa est. Bon, allez, quoi, la messe est finie. La messe, au point de départ, c'était ça. C'était un envoi en mission. Tout ça, c'est les mêmes mots. Autrement dit, le missel, c'est l'outil qui sert à faire de nous des missionnaires à travers la liturgie.
C'était important de le rappeler, puisque ce missel est vraiment un outil au service de la liturgie, c'est ça qu'il faut se dire aussi.
Exactement. Et alors surtout, il faut bien comprendre une chose, c'est que le missel n'est pas que l'affaire du prêtre. Or, très souvent, on a dit « Oh, ben le missel, ça c'est l'histoire du curé, c'est pas notre problème ». Eh bien si, parce que le but du missel, c'est quoi ? Eh bien, c'est de faire prier l'assemblée. C'est de faire faire à l'assemblée un chemin de conversion spirituelle. Et donc, les premiers intéressés par le missel, donc par une nouvelle traduction, c'est l'Assemblée. Évidemment, il est fait pour ça d'abord.
Alors, il faut dire qu'il y a eu un long travail d'une vingtaine d'années pour arriver à cette nouvelle traduction. Ce sont des experts qui ont donc travaillé pour adapter le missel qui existait ?
Oui, tout à fait. Pour chaque ère linguistique, il y a toujours une équipe d'experts. Alors, pour la francophonie, la nouvelle traduction a donc été réalisée par des experts de France, de Belgique, de Luxembourg, de Suisse, du Canada et de l'Afrique francophone. Généralement, ces experts sont des liturgistes, généralement de très haut niveau, pratiquement tous, ils enseignent en fac, puis des linguistes, on avait des professeurs de la Sorbonne, par exemple, qui étaient là, des poètes aussi, pour avoir cette espèce de génie de la langue par moment, même si ce n'est pas très simple en respectant la traduction. Donc voilà, un certain nombre d'experts qui ont travaillé ensemble pour aboutir à une traduction proposée à Rome.
C'est intéressant aussi de dire un mot de la traduction, parce qu'on peut dire que la traduction, eh bien, ça s'inscrit dans la tradition vivante de l'Église. Et d'ailleurs, avant la publication de ce nouveau missel, il y a eu la publication de ce qu'on appelle la Bible liturgique.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, la tradition de l'Église est toujours une tradition vivante. Le but de la liturgie, c'est toujours de permettre aux gens d'une époque et dans des conditions qui sont les leurs, de prier avec leurs mots. C'est bien ça qu'il y a derrière. Alors quelquefois, on nous bassine avec le missel de toujours. Le missel de toujours, ça n'a jamais existé. Puisqu'on sait très bien qu'au point de départ, les apôtres ont célébré en araméen, c'était la langue de la synagogue. puis ensuite en grec, puis ensuite en latin, et de nouveau maintenant dans langue vernaculaire. Voilà, c'est ça la tradition vivante. Et donc, ce qu'on demande à une équipe de traducteurs, c'est ça, c'est de tenir compte des conditions, des situations d'aujourd'hui, et ensuite de travailler, pas seulement entre experts, parce qu'il y a toujours le risque, mais ensuite des allers-retours avec les utilisateurs.
Et puis donc, ces experts ont travaillé avec des allers-retours avec les utilisateurs, mais avant d'être publiée, cette nouvelle traduction a été validée par les conférences épiscopales francophones, des pays francophones, et aussi par Rome.
Oui, alors là, ça a été un peu compliqué, parce que il y a eu une époque où il y a eu un texte qui est paru, qui s'appelait Liturgiam Authenticam, donc la vraie liturgie, et dans lequel on demandait, pour les traductions liturgiques, véritablement un mot à mot du latin. Il y avait une espèce de peur que finalement, en traduisant, on trahisse le texte latin. Alors, on était arrivé à des traductions qui étaient quasiment incompréhensibles. Moi, j'ai eu à relire les oraisons et les préfaces. On m'a demandé de les relire pour savoir si c'était chantable. De temps en temps, je suis tombé sur des trucs. C'était d'abord incompréhensible et deuxièmement, totalement inchantable. Alors, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec la congrégation romaine qui s'occupe de ça, jusqu'au jour les évêques ont dit c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. Donc, ils sont allés voir le pape et le pape a proposé un motu proprio. C'est-à-dire, il a dit de lui-même, voilà, je pense qu'on peut donner un peu plus de latitude aux conférences épiscopales. À une triple condition, la condition de trois fidélités. C'est très intéressant ce que le pape a dit. Il a dit, premièrement, il faut être fidèle au latin. C'est vrai que dans l'ancien missel, par exemple, il y avait des choses qui étaient quand même très, très éloignées du texte latin. Deuxièmement, il faut être fidèle à la langue, que ce soit compréhensible et qu'il y ait une espèce de génie de la langue. Et troisièmement, à la compréhension des fidèles. C'est fait pour la prière du peuple, il faut qu'on puisse comprendre ce qui est dit. Alors là, les choses ont été un peu compliquées. De temps en temps, effectivement, encore, on pourra se dire, oh là là, ils nous ont fait une traduction, c'est incompréhensible. En fait, ce n'est pas incompréhensible. Ça va demander une pédagogie derrière pour aider les fidèles à rentrer peut-être dans des formules un petit peu différentes auxquelles ils ne sont pas habitués.
Sur RCF, votre émission, une fois pour tous, avec Serge Kérien, nous parlons de la parution du nouveau missel romain, nouvelle traduction du missel romain. On a dit, voilà, tout le travail qui a été fait depuis 20 ans pour la traduction de ce nouveau missel. Pour ceux qui ne sont pas des habitués de ce missel, c'est quoi les grandes parties d'un missel romain, Serge Kérien?
Le missel, en fait, j'ai pas beaucoup parlé de différentes parties parce qu'en fait, c'est tout un ensemble, c'est une vraie dynamique. Mais il y a quand même des parties différentes. Il y a toujours une première partie qui est une liturgie d'ouverture. C'est-à-dire, on se dispose à. C'est-à-dire, j'ouvre mon cœur pour recevoir Dieu qui vient à ma rencontre et pour recevoir les autres qui célèbrent avec moi. Puis, il y a une deuxième partie autour de la liturgie de la parole. Une troisième partie autour de la liturgie eucharistique, c'est-à-dire une liturgie d'action de grâce. Et une dernière partie qui est la liturgie d'envoi. Nous avons reçu la parole et le pain, c'est pour faire de nous des missionnaires. Voilà en gros la structure.
Est-ce que vous voulez nous dire finalement quels sont les principes qui ont présidé au travail de cette commission qui a eu à traduire? Qu'est-ce qui les a animés, en fait, d'une certaine manière.
Alors, ce qui les a animés, c'est le bien du peuple de Dieu. Évidemment, c'est ça qu'il y avait d'abord derrière. Ce qui a posé un certain nombre de problèmes, d'ailleurs. C'est pas simple. Par exemple, au Canada, vous avez des expressions qui sont typiques de la langue canadienne et chez nous, totalement inaudibles. Et inversement, donc il a fallu jouer avec tout ça, avec aussi des manières de s'exprimer de l'Afrique, l'Afrique francophone, ou même quelquefois de la Suisse ou du Luxembourg, où il y a des particularismes locaux. Donc, quel est le bien du peuple? C'est toujours ça qu'il faut avoir en tête. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, tout en étant fidèles au latin et donc au texte qui nous est donné. Comba, c'est-à-dire le missel, c'est un don qui nous est fait pour la prière. À partir de ça, ils ont travaillé, mais toujours le bien du peuple.
Nous allons parcourir quelques changements que l'on peut trouver dans ce nouveau missel romain. On va bien suivre le déroulement d'une célébration eucharistique et on commence donc par le temps de l'accueil et la salutation. Il y a des choses qui changent dès le début de la célébration.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, il y a déjà des formules d'ouverture qui sont un peu plus larges et qui permettent aux prêtres pas mal de liberté, finalement, parce que là aussi, c'est une monition. Dans les monitions, on a beaucoup de liberté. Et puis, il y aura l'invitatoire à l'acte pénitentiel. Jusqu'à présent, on disait « Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. » Maintenant, on va dire « Frères et sœurs ». Donc, vous voyez déjà « Frères et sœurs ». Ça, c'est aussi langage inclusif canadien, on en a pris un petit peu, pas trop. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Alors, la différence, évidemment, du « Oh là là, c'est quoi cette affaire ?» Pourquoi le mystère de l'Eucharistie? Parce que l'Eucharistie, c'est bien un mystère du don de la grâce. Et rappeler qu'il y a là quelque chose qui n'est pas incompréhensible, un mystère, ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible, ça veut dire que progressivement, Dieu se dévoile. Et dans l'Eucharistie, au fur et à mesure qu'on célèbre, au fur et à mesure qu'on participe à l'Eucharistie, il y a un dévoilement de Dieu, un dévoilement du Christ qui vient à notre rencontre. Et puis, en reconnaissant, non pas que nous sommes pécheurs, mais que nous avons péché.
Qu'est-ce que ça change?
Eh ben, nous sommes pécheurs, bon, très bien, il y a une espèce de globalisation des choses. Parce que nous avons péché, il y a des actes précis, c'est-à-dire on nous renvoie à quelque chose de très précis dans nos vies. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est des nuances de théologien ou de liturgiste. Ben, peut-être pas tant que ça quand même. Quand on comprend, oui. Mais là il y aura besoin d'une vraie pédagogie pour rappeler ça et faire comprendre les choses. Voilà un exemple.
Si on en reste à ce rite pénitentiel, un peu de changement du côté du « je confesse à Dieu » puisqu'on dit, on va dire désormais, « je reconnais devant vous, frères et sœurs ».
Oui, alors, même chose, langage inclusif, c'est-à-dire vous allez au Canada, toutes les formules, c'est frères et sœurs, absolument partout. Et on s'est dit que c'est pas mal non plus d'en avoir un peu, non pas pour faire un féminisme à deux balles, c'est pas le moment, mais pour bien reconnaître que frères et sœurs, il y a une vraie communauté chrétienne qui est conjuguée par des hommes et des femmes, voilà. Donc les deux, c'est reconnaître la communauté dans ce qu'elle est. Et puis, bon, y a pas, c'est pas seulement devant vous, mais frères, quoi. Voilà. On reconnaît bien, là, comment je pourrais dire ça, pas le double genre, parce que c'est pas juste, mais qu'une communauté chrétienne, une assemblée, est faite d'hommes et de femmes. Voilà, on reconnaît les choses.
Et puis, il y a des propositions nouvelles aussi pour la prière pénitentielle. On peut dire que là aussi, des choses peuvent bouger, vont bouger.
Oui, bien sûr, il y a des choses qui vont bouger. Il y a des formules un petit peu différentes. Globalement, il y a toujours les quatre propositions de préparation pénitentielle. Mais, par exemple, la deuxième formule bouge un petit peu. Elle n'est plus tout à fait celle qu'on avait précédemment.
Si on s'arrête sur le gloire à Dieu, on avance dans la célébration de la messe, il y a quelque chose qui change puisqu'on disait « toi qui enlèves le péché du monde » et on va entendre maintenant « toi qui enlèves les péchés du monde ». Et d'ailleurs, dans toutes les formules de ce nouveau missel, on ne dira plus « le péché » mais « les péchés ». Qu'est-ce que ça change?
Alors, premièrement, c'est la fidélité au latin que demandait le pape. En latin, peccata, c'est les péchés. Et deuxièmement, c'est la même chose que dans la préparation pénitentielle. Quand on dit, toi qui enlèves le péché du monde, il y a une espèce de globalisation du mal. Alors que quand tu dis les péchés du monde, c'est quelque chose que je peux identifier et nommer. Et le fait de nommer, c'est faire exister. C'est-à-dire, si je dis les péchés du monde, dans ma tête, je vois bien ce qu'il y a derrière. Donc, en sortant d'une espèce de globalisation, c'est pas pour faire qu'on se sente tous des gens abominables et épouvantables, mais qu'on puisse nommer le péché pour vraiment le faire exister.
Cette première partie de la célébration eucharistique se termine par la prière d'ouverture. Est-ce qu'il y a là aussi des changements qui sont proposés?
Ah oui, il y a des changements qui sont relativement importants. Par exemple, je n'ai pas tous les exemples en tête, mais le latin dit souvent « Deus qui », « Dieu qui ». Mais en français, ça était très dur. « Dieu qui ?» C'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule syllabe. Donc, ça a été changé très souvent. Ça va être « Seigneur Dieu ». On a, pour que ce soit plus lisible en français. La deuxième chose, c'est qu'on a supprimé du vocabulaire un certain nombre de mots qui, finalement, étaient des restes du langage de cour. On demandait à Dieu un certain nombre de choses, comme si on était soumis, écrasé par Dieu, et qu'on le suppliait pour un certain nombre de choses. Ça également, ça a bougé. On a supprimé tout ce langage vraiment suranné et qui était effectivement le langage de la cour pontificale à une certaine époque.
Voici le pain, fruit de la terre et du travail que les vivants viennent offrir, Dieu notre Père. C'est le merci de tes enfants que par l'Esprit ce pain donné devienne corps de Jésus-Christ et que nos vies pour partager sois chaque jour nourri de lui. Ton corps, Seigneur, est pain rompu pour notre paix, notre salut. Dès aujourd'hui et chaque jour, viens nous combler de ton amour. Voici le vin, fruit de la vigne et du travail des vendangeurs. Nous te l'offrons, il est le signe qui vient de toi, Dieu créateur. Que par l'Esprit ce vin versé devienne sang de Jésus-Christ, qu'il fortifie notre unité et soit en nous source de vie.
On avance maintenant avec vous, Serge Kérien. On découvre donc ce nouveau missel romain sur RCF et on passe à la liturgie de la parole. On l'a dit, je crois que c'est important de le rappeler, il y a quelques années, il y a eu la nouvelle traduction de la Bible liturgique qui a entraîné des changements. On a en tête notamment le Notre Père, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a aussi, dans ce nouveau missel romain, quelques évolutions pour la liturgie de la parole ou peu, finalement?
Non, quasiment pas. Il y a quasiment rien, là. Ça reste comme précédemment. La seule différence, quand on va terminer la liturgie de la parole, ça va être dans le credo.
Voilà, on y vient. Alors là, voilà. Il y a un mot difficile qu'on trouve dans le symbole de Nicée-Constantinople.
Oui, absolument.
Parce que ceux qui sont pratiquants ont en tête de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Et là, c'est fini, on ne dira plus ça.
Non, on dira consubstantiel au Père. Alors évidemment, on dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce
c'est
gros
mot? C'est un mot difficile.
Alors c'est vrai qu'en latin, on le disait en chantant le credo 3, hein, consubstantialem patri, ça posait de problème à personne. Alors le fait de dire consubstantiel, évidemment, ça a été imposé. C'est-à-dire, on n'a même pas eu à discuter, c'est le pape Benoît XVI qui a dit, ça, c'est incontournable. Bon, derrière, il y a toute une théologie. Ça ne va pas être très simple à expliquer, hein, parce que le terme de substance tel qu'il est dans le mot consubstantiel, c'est un concept de l'époque médiévale. Donc, par derrière, il y a toute une philosophie des philosophes grecs. Et le terme de substance aujourd'hui n'a absolument plus le même sens. Alors, bon, faudra pas trop se casser la tête avec ça. Moi, je dis quelquefois, de même nature que le Père, je suis pas sûr que tout le monde comprenait ce que ça voulait dire, hein. Ça n'a pas empêché de le dire. Donc, il faut pas se battre là-dessus. On dira consubstantiel. Ça changera pas fondamentalement notre acte de foi.
On avance, on ne dit pas grand-chose de la prière universelle, puisque là, il n'y a pas de changement. on avance, on arrive maintenant à la liturgie de l'Eucharistie, à la table de l'Eucharistie. Et là, dès l'offertoire, la préparation des dons, il y a du changement dans les formules qui vont être prononcées par le prêtre et qui sont d'ailleurs des belles formules, je trouve.
Ah oui, je trouve que vraiment la formule d'offrande du pain, par exemple, et du vin, ça va être pareil. Hein. « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. » C'est intéressant de noter « Nous avons reçu de ta bonté ». C'est-à-dire que tout nous est donné d'avance, c'est ça que dit. Voilà. Finalement, nous, qu'est-ce qu'on présente ? Ben, sinon, ce que nous sommes, notre vie, quoi, mais rien d'autre. Hein. Dieu nous a déjà tout donné et nous lui rendons ce qu'il nous a donné. D'ailleurs, c'est le sens de rendre grâce. Je ne peux rendre que ce que j'ai reçu. Et voilà, ça s'est très bien souligné là.
Et si on continue, aussi une évolution du côté de la prière des offrandes, une évolution qui n'est pas neutre et qui est aussi intéressante, puisque le prêtre va dire « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. »
Et oui, alors là, ça a été un gros débat avec Rome, parce que la formule qu'on avait est quand même très belle. Hein. « Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » On pourrait dire, prier, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi là, on a l'impression du coup que le prêtre devient un grand sacrificateur, il monte à l'autel avec un couteau entre les dents, quoi, et vous allez voir ce que vous allez voir. Quoi. En fait, ce n'est pas du tout ça le sens. De quel sacrifice s'agit-il ? Eh bien, pour ça, il faut se remettre en tête ce qu'est la procession des dons. Qu'est-ce que c'est la procession des dons ? On apporte le pain et le vin que nous avons reçus de Dieu. Mais en apportant le pain et le vin, je mets ma vie aussi. Parce qu'à la communion, je ne reçois pas que le pain et le vin, je reçois aussi ma vie consacrée, c'est-à-dire devenue plus sainte. C'est fait pour ça la communion. Et donc quand on parle de mon sacrifice et du nôtre, c'est le sacrifice des lèvres, c'est-à-dire le sacrifice de louange. Qu'est-ce que je mets à Dieu de ma vie pour lui rendre grâce ? Qu'est-ce que je lui offre en même temps ? C'est ça tout simplement le sens, c'est-à-dire que ce n'est pas un sacrifice sanglant, le Christ l'a fait une fois pour toutes, on n'en parle plus, c'est nous-mêmes, qu'est-ce que nous mettons de notre propre vie en offrande. C'est-à-dire à quoi j'accepte de mourir, qu'est-ce que j'accepte de sacrifier de ma vie pour recevoir la vie de Dieu. Voilà le sens.
Après, le missel va proposer aussi, on peut dire, quelques aménagements sur les quatre prières eucharistiques, enfin... On dit qu'il y a souvent, il y en a un peu plus, mais les quatre principales prières eucharistiques.
Oui, il y a des aménagements. Ben bon, là, il faudra un petit peu les découvrir. Les plus importants, c'est au moment des anamnèses. Hein. Les anamnèses, évidemment, qui bougent un petit peu. Par exemple, les grands mystères de la foi, ça devient « nous annonçons ». D'abord, et non pas « nous proclamons ». D'abord, c'est « nous proclamons ta résurrection ». Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est-à-dire quelques mots qui ont été changés. Même chose pour la deuxième. Acclamons le mystère de la foi et l'assemblée répond quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, etc. Voilà. Voilà quelques exemples. Hein. Puis une nouvelle, carrément, qui était dans le missel romain et qui n'avait pas été mise dans le missel français. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous par ta croix et ta résurrection. Tu nous as libérés. Ça veut dire que là, les musiciens vont avoir un peu de boulot, quoi.
Il va falloir qu'ils réécrivent des airs pour ces paroles. Alors, si on continue donc sur la traduction ce nouvel au missel romain, dans la suite de la messe, après le Notre Père, les paroles du prêtre vont aussi évoluer.
Enfin, voilà ce qu'on va entendre. Hein. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ça, on l'avait déjà. Mais c'est la suite. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et il y a deux choses très importantes là. C'est libérer du péché et à l'abri de l'épreuve. On demande au Seigneur, vous savez, c'est sous l'abri du Très-Haut, quoi. C'est le psaume, hein, c'est rien d'autre. Et la deuxième chose, c'est que l'espérance chrétienne est nommée. L'espérance chrétienne, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est quelqu'un. On dit clairement, se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'espérance chrétienne.
On avance dans la célébration de l'Eucharistie. Il va y avoir aussi quelques modifications au moment de l'agneau de Dieu, avec la prière après, dans l'agneau de Dieu, on ne dira plus le péché, mais les péchés, on l'a déjà évoqué au moment du rite pénitentiel. Et puis dans les prières que dit le prêtre, après aussi, il y a quelques évolutions, notamment pour, quand le prêtre dit « voici l'agneau de Dieu », et là, il y a du changement.
Oui, il y a l'inversion de la formule, déjà. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on dit « heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu ». Dans la nouvelle traduction, c'est « voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». Donc là, on est plus proche du texte de saint Jean. Et « heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Là, c'est pareil, c'est l'allusion évangélique au repas des noces, quoi. Vous voyez, là, plutôt que de dire simplement « heureux les invités au repas du Seigneur », c'était un peu faible quand même en français. Est-ce que la traduction, là, elle est plus forte. Et surtout, elle renvoie à l'écriture.
On en arrive à la fin de la célébration, au rite de conclusion. Alors là, ce qui change, ce sont des formules nouvelles proposées pour le temps d'envoi. On est habitué à entendre « aller dans la paix du Christ ».
Oui.
Et là, il y a plusieurs formules qui sont proposées. Je ne sais pas d'ailleurs si dans la précédente édition, ces formules existaient ou si elles sont nouvelles.
Non, elles sont tout à fait nouvelles. Alors, il y a donc « aller dans la paix du Christ », ça, voilà, c'est l'itémissa est classique. Puis, il y a une deuxième qui est « aller porter l'évangile du Seigneur ». On est clairement dans l'envoi, vous savez, le terme « messe hein, »,« missa », voilà, « aller porter », on dit aux chrétiens qui sont là, ben, « votre boulot maintenant, que vous avez partagé la parole et reçu le pain de vie, c'est d'aller porter l'évangile, votre boulot missionnaire ». La troisième formule, c'est « allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie ».
C'est très beau aussi. Hein.
Ça, c'est magnifique. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que ça veut dire que moi, si je n'ai pas le charisme d'aller porter l'évangile, etc., je peux avoir le charisme de témoigner simplement par ma vie ordinaire. Voilà comment je vis l'évangile dans ma vie de tous les jours, de manière plus ordinaire. Eh bien, on le rappelle, si vous vivez l'évangile dans votre vie, tout simplement là où vous êtes, vous rendez gloire au Seigneur. Et puis, la dernière formule, c'est « allez en paix ». C'est-à-dire, vous avez lâché plein de choses pendant ce temps de célébration. Et bien voilà, soyez tranquille, soyez serein. Autrement dit, ayez une belle tête de ressuscité quand vous sortez. Voilà, ne faites pas la gueule.
Pour conclure, on peut dire, Serge Kerrien, que la publication de cette nouvelle traduction du Missel romain, c'est peut-être aussi pour les chrétiens l'occasion de se replonger et de chercher à redécouvrir le sens profond de l'Eucharistie, puisque c'est quand même ça l'enjeu aujourd'hui.
Ben évidemment, l'enjeu est là, c'est-à-dire c'est l'occasion unique de redécouvrir en communauté chrétienne l'enjeu et l'importance de l'Eucharistie dans nos vies, c'est-à-dire penser, se rappeler toujours que l'Eucharistie est une dynamique de conversion, c'est-à-dire que je rentre dans l'Eucharistie, le Seigneur vient à ma rencontre, il me partage sa parole, il me partage son pain, pour que ma vie soit sanctifiée, et que du coup, en sortant, je ne sois plus tout à fait comme je suis rentré. Et l'enjeu, il est là. Et on voit bien que quand on n'a pas compris ça, on vient à la messe consommer Jésus. Or, on ne fait pas que de la consommation eucharistique. On se laisse transformer par l'Esprit-Saint dans un chemin qui, au moins de dimanche en dimanche, nous fait autre à l'image du Christ.
Serge Kerrien, merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de cette nouvelle traduction du Missel romain qui va entrer en vigueur au premier dimanche de l'Avent.
Merci à vous aussi.